C'est tous les mardis à 12h35 sur CFM, Histoire et Religion, une émission avec Bernard Vachereau, curé de Caylus. Bon, on a fait deux émissions sur les gnostiques, on est remonté à Babylone, les Juifs, Moïse, la traversée de c'est quoi la mer rouge,
la traversée de la mer rouge, oui.
La mer rouge, voilà. Puis la théorie des gnostiques sur le thème le dieu de l'Ancien Testament ou qu'il est méchant.
Oui.
Hein, et l'homme là-dedans, comment on le définit? Certains considérant que l'esprit est prisonnier du temps, du corps, de la chair, et tout ça. Et la question de l'âme. Alors ça, on en a brûlé des gens, sur la question de l'âme.
Ouh là 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 là. Ça, c'était une des grandes questions de Platon. Justement.
L'âme est-elle inflammable?
Ah! Oh, bon. D'accord. Bien. Non, mais c'est bien. J'aime bien parce que vous avez le sens de l'humour. C'est excellent. Bon. Oui, la question de l'âme. Ben, comme je vous le disais, Platon, par exemple, s'y était extrêmement intéressé à l'âme. Hein. Mais quittons un peu Platon, justement. Même si on va devoir employer des mots grecs, ce qui nous reste encore. Bon. Les gnostiques, justement, se sont énormément intéressés à l'âme. Pour eux, il y a deux types d'hommes. L'homme qui s'intéresse à l'idée, qui cherche à se débarrasser de la matière, comme par exemple la chair, pour atteindre les sommets de la pensée, celui-là, il est psychikoi, en grec.
Psychikoi.
Oui. Psyché. Hein, là, donc...
On continue à le dire, ça, des gens qu'on voit comme ça. Et celui-là, il est psychikoi. Non.
Non. Non, bien sûr que non. On dit par contre qu'il est psycho, mais ça veut dire qu'il pète un câble.
Ah,
bon, d'accord. Non, 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 non. Psychikoi, eh ben, c'est justement celui qui s'est dégagé de la chair pour atteindre les sommets de la pensée. Et puis, il y a l'autre, qui est sarkikoi, alors lui, il est à l'opposé, il est englué dans la matière.
Vous inventez ça, sarkikoi, je peux pas le croire.
Sarko, c'est à ça que vous pensez?
Non, je pense à rien.
D'accord, bon, bien, oh, je vais pas me faire aimer, je crois pas que j'aurai une promotion, ça, surtout s'il entend ce que je viens de dire.
Psychikoi et les sarkikoi.
Oui, alors sarkikoi, eh bien, c'est l'homme qui est oublié dans sa graisse, son matérialisme, sa paresse intellectuelle. Hein, voilà. Alors, pour la majorité des auteurs gnostiques, revenons à eux, Jésus, et ça c'est très fort à retenir, Jésus n'est pas venu mourir pour les hommes, mais pour être parmi eux l'ambassadeur de Dieu, afin de révéler aux hommes la connaissance suprême qu'il leur révélera tous les mystères de Dieu. Ça, c'est un point très fort du gnosticisme. Attention. Le Christ, pour ses auteurs, ne vient pas tellement mourir pour les hommes, non, il vient leur procurer le salut par la connaissance et la révélation des mystères de Dieu. Dieu est donc un mystère pour les gnostiques. Hein. En effet, qu'est-ce qui pousse pour les gnostiques? Celui qui était démiurge dans l'Ancien Testament à devenir Dieu bon et de miséricorde dans le Nouveau. Si c'est le même.
Ah oui,
or,
oui,
pour les gnostiques...
Attendez, si c'est le même, ça veut dire qu'il y en a deux.
Ah, mais ben, pour la plupart des auteurs gnostiques, ils sont arrivés, après cette question, à penser que la réponse à cette question était qu'il y en avait deux.
Satan.
Vous savez que pour les penseurs anciens, le bâton de Moïse. Vous avez parlé de Satan, son imagerie est celle du serpent. Le bâton de Moïse qui est jeté dans le désert et devient serpent. Attention, pour ses auteurs, Moïse avait rencontré justement Jéthro. Jéthro, qui était grand prêtre madianite, et qui d'ailleurs a donné sa fille en mariage à Moïse. Jéthro était grand prêtre madianite. Or, le madianisme était une religion gnostique. Déjà, du temps de Moïse, oui. Or, le serpent, dans l'Antiquité, c'était le dieu de la connaissance. Et il n'était pas considéré comme méchant ou mauvais. Ah. Il était considéré comme Dieu bon.
Donc Ève s'est laissée séduire par...
L'arbre de la connaissance. Le lieu du Dieu de la connaissance.
Et alors pourquoi ça serait un péché? Pourquoi ça serait un péché alors?
Ça, c'est justement toute une dose plus tard de l'ignorance aussi, hein, qui a transformé les choses. Bon, et oui, si on fait une exégèse sérieuse du texte, à la lumière des autres religions aussi, attention, on arrive à des résultats surprenants.
C'est-à-dire que le péché originel n'en serait pas un.
Là, on atteint la théologie de l'Église. Et pour nous, dans l'Église byzantine,
Dieu me garde de faire des choses pareilles.
Dans l'Église byzantine, nous avons beaucoup de mal à parler de péché originel, parce qu'alors nous nous disons, mais alors est-ce que Dieu serait justement un démiurge qui aurait mis l'homme dans le péché pour avoir le plaisir de le libérer du péché? Il y a un côté un petit peu maso, hein, là-dedans. Bon, c'est une vision que nous n'aimons pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais, bon, je n'irai pas plus loin.
Revenons à l'eschatologie.
Bien.
C'est beaucoup plus serein.
Oui. Alors, je vous ai dit que nous avions trois grandes têtes du gnosticisme, à savoir Valentin, qui a vécu à peu près entre 135 et 165. Bien sûr, il a vécu plus longtemps que ça. Mais on le connaît dans ces dates-là. On a Basilide. Lui, on le situe entre 125 et 150. Bon, après Jésus-Christ, bien sûr. Et vous parliez, dans l'émission précédente, de Marcion Dupont. Lui, on le connaît entre 140 et 160. Hein. Mais... tout cela, on voit que ce sont des chercheurs de Dieu. Ce sont des judéo-chrétiens, chercheurs de Dieu et chercheurs de vérité. Et au fond...
et qui posent la question du dualisme.
Toujours. Toujours. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est de voir que le christianisme, dans sa pensée, a englobé toute une série de formes très contrasté, très contrasté, très variable, bon, et entre contestées entre elles, mais que le christianisme a toujours englobé la recherche. Et je pense que là, il y a une réponse, par exemple, bon, on nous assène souvent Galilée, ce qui est vrai, attention, je n'irai pas nier la vérité.
Que la Terre est plate.
Oui. Bon, et qu'elle tourne. Mais quand l'Église a reconnu son erreur sur le jugement de Galilée...
Il n'y a pas si longtemps que ça.
Il n'y a pas si longtemps que ça, mais pourquoi elle l'a reconnu? Parce qu'elle n'a pas oublié que parmi ses penseurs, il y eut des hommes qui, très tôt après Galilée, n'avaient pas admis cette condamnation, et même la mettait sérieusement en doute parmi même les hauts membres du clergé. Ainsi par exemple, l'évêque de Sarlat, en Dordogne, envoie le chanoine Jean de Tarde, qui était le vicaire général du diocèse de Sarlat, l'envoie au XVIe siècle à Rome pour, bien sûr, voir le pape, etc., bien, d'accord, mais surtout étudier. Or, Jean de Tarde était historien et astronome. Il s'est passionné pour l'affaire de Galilée. Et l'évêque savait très bien que c'était une question qui passionnait Jean de Tarde. Aurait-il été assez imprudent, parce que les prisons existaient aussi pour les évêques, aurait-il été assez imprudent d'envoyer son vicaire général passionné d'astronomie s'intéresser à Galilée, s'il avait su qu'à Rome même, il n'y avait pas des cardinaux qui eux-mêmes s'intéressaient à Galilée malgré la condamnation?
Histoire et religion sur CFM avec Bernard Vacherot, curé à Caylus. Alors, on parlait gnostiques, mais est-ce qu'ils ont été critiqués? Puisque, bon, aspirer à la connaissance, on peut qu'applaudir.
On doit pouvoir tout dire, mais on doit accepter aussi la critique. Le véritable penseur ou le chercheur est un homme qui arrive à une hypothèse, mais qui n'a pas la prétention de donner des certitudes. Bon, il y a des certitudes, oui, d'accord, 1515, bataille de Marignan, ok, bon.
Les théorèmes de Pythagore.
Par exemple. Bon, ok. Même si Auguste Comte, dans sa philosophie sur les chiffres, par exemple, enseignait que tout est critiquable, par exemple, Auguste Comte disait qu'une ligne droite, si on l'examine, surtout la règle, hein, on l'examine au microscope, on découvre qu'elle n'est pas droite du tout, mais faite d'une série de virages. Bon, ok. Donc, on doit pouvoir admettre la critique. Cette critique, eh bien, elle est venue très tôt. Cette critique des gnostiques est venue très tôt. Le plus grand critique a été Saint-Irénée de Lyon. Saint-Irénée de Lyon, hein, qui est connu entre les années 130 et 200, est né en Turquie. Vous voyez, encore le Proche-Orient. Il est né en Turquie, à Smyrne. Il est devenu évêque de Lyon entre 178 et 185, après un passage à Rome, où il avait aussi mené des études. Et puis, il y a eu un autre critique, peut-être plus dur encore qu'Irénée de Lyon, c'est Tertullien. Tertullien qui est connu entre 160 et 220. Celui-là était originaire de Carthage, en Afrique du Nord. Il s'était converti en 195, il avait d'ailleurs fréquenté les théories de, justement, Marcion Dupont, donc le manichéisme, tout ça, il s'y était intéressé de très près. Mais Tertullien a écrit de nombreux traités théologiques sur la question de la Trinité et de l'unité. Donc les hypostases, etc., etc. Or, Irénée de Lyon, qui connaissait Polycarpe, lequel Polycarpe avait été disciple de saint Jean, l'évangéliste, et Irénée n'a pas connu Papas, mais Papas fut un autre des disciples de saint Jean l'évangéliste. Donc, à cette époque-là, on a des témoins des quatre évangélistes officiels, hein, et Irénée de Lyon, héritier de la culture évangélique que lui avait donnée Polycarpe, attaque les gnostiques. Il attaque les gnostiques et les critique sur leur vision de Dieu et surtout leur discours sur le logos, c'est-à-dire la parole du Christ. Logos en grec, hein, ou bien voilà, la parole du Christ. Quant à Tertullien, il les attaque sur leur conception de Dieu dans le cadre de la Trinité et de l'unité. Hein. L'unité des natures divines. Dieu, et là on rejoint par exemple le manichéisme, bon, Dieu ou bien les théories d'Arius, etc. Dieu est-il uniquement homme, uniquement Dieu, esprit, etc. Vous voyez ? Bon. Non. Unité. Bien. Eh bien, cette question...
Mais il s'est fait jeter à poser cette question.
Qui ? Tertullien ? Pas du tout.
Pas du tout. Il a fini montaniste.
Oui, mais bon. Il est quand même reconnu aujourd'hui par l'Église parmi les grands penseurs. Les penseurs critiques, mais les grands penseurs. Bon, tout de même, comme justement à une époque, on a rejeté, bon, notre grand évolutionniste Teilhard de Chardin, mais aujourd'hui, on le reconnaît comme un des grands penseurs du christianisme moderne.
Ça, c'est un truc commode, ça. On dit non, c'est faux, on en brûle un certain nombre, et après on s'excuse et c'est bon. La vie continue.
Je rigole, mais non, pas si commode que ça. Parce que justement, il faut accepter la critique de la critique. Ce qui suppose aussi une humilité intellectuelle, de savoir reconnaître qu'on a pu se tromper. Bon. Je dirais que l'Église fait cette démarche et c'est extrêmement intéressant.
Alors, tant que c'est dans le domaine des idées, de débat, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à partir du moment où l'Église devient un pouvoir, tous ceux qui peuvent, je dis même pas la contester, mais apporter des éléments de réflexion qui peuvent être contradictoires, pas seulement critiques, mais contradictoires, cela déroge et sont par exemple dans d'autres religions schismatiques.
Déroger,
je sais pas moi.
Dévier, bon. Disons que, vous voyez, par exemple, dans la question qui est bien en vogue, de l'Inquisition.
Ouais, en vogue. Bah,
les papes, au début de l'Inquisition, quand ils ont lancé celle-ci, ont voulu rester très modérés et prudents. Bon. Quid de la question Qatar, il y avait quand même pas mal d'interrogations. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur même de l'Église, par exemple, les franciscains remettaient en question beaucoup de choses, hein, de la vie un peu luxueuse des prélats et de l'Église. Bon. Et il y a eu des oppositions virulentes entre Rome et les franciscains. Et plus tard, les papes d'Avignon et les franciscains. On se souvient en particulier des oppositions entre Clément VI, pape d'Avignon, et les franciscains. Bon. Mais s'il y a eu ces oppositions, il n'y a pas eu exclusion. Attention. Et j'en reviens à ceci.
Ouais, mais est-ce que c'est pas un petit peu commode, finalement?
De laisser
un ordre mendiant, s'occuper des pauvres, etc. Mais développer un discours et se dire, oui, il fait quand même partie de l'Église.
J'en viens à ceci, Johan, que, l'Église a voulu être prudente, parce que d'une part, elle avait la mission de donner l'intégralité d'un enseignement celui du Christ dans la Bible, sans qu'il y ait de déviance. Bon. Or, à qui confier cette mission ? En sud de la France, Rome était loin, géographiquement. Bon. Alors, elle confie cette mission à des penseurs, un ordre tout nouvellement fondé par un certain Dominique, et elle demande à ces penseurs, à ces théologiens, d'approfondir la question du catharisme et des questions qu'ils posent.
Eh ben quoi, vous savez, il va falloir attendre la semaine prochaine pour avoir la réponse. Merci Bernard Vachereau. C'est tous les mardis à 12h35 sur CFM, Histoire et Religion, une émission avec Bernard Vachereau, curé de Caylus.